Bonsoir à tous, bienvenue à tous les invités nombreux ce soir, ravi de vous accueillir. Je laisse bien sûr à Jean-Pierre le soin de présenter l'intervenant de ce soir. Simplement, les quelques nouvelles des plénières à venir. Alors, la prochaine, ce sera un vendredi aussi, le 27 novembre. Nous accueillerons, alors ce sera une organisation un peu particulière parce qu'il y aura en fait trois intervenants qui vont débattre ensemble. Monsieur Andrei Gratchev, Bernard Guetta et Jean-Pierre Paget qui co-animera le débat et sera intervenant puisqu'il est aussi spécialiste de ces questions sur la Russie. Donc le titre c'est « Faut-il avoir peur de la Russie de Poutine ?» Vous allez recevoir l'information habituelle avec un texte qui est assez consistant, mais qu'il vous est recommandé de lire avant cette plénière. C'est un texte de M. Gratchev sur le sujet. Et comme si nous voulons pouvoir débattre, étant donné le nombre d'intervenants, il sera obligé dans son intervention d'être plus succinct que ce qu'il a développé dans ce texte. Donc vous l'aurez en même temps que la provocation, ce qui permettra de préparer des questions éventuellement.
On peut donner le titre parce que ça va tout de suite séduire. C'est « Who lost Russia ?» Qui a perdu la Russie. Et pour lui c'est l'Occident. Voilà. Vous direz ça.
Ensuite, la plénière suivante, elle est récemment fixée, ça sera le vendredi 18 décembre. Et là, nous accueillerons Catherine Vitol de Vinden sur les questions d'immigration et des émigrations, etc. Elle est tout à fait spécialiste de la question. Et en janvier, mais ce n'est pas encore complètement arrêté parce que les intervenants possibles sont complètement mobilisés sur la COP21. Nous voudrions avoir une plénière sur la question écologique. Donc, après, c'est ça. Alors, la prochaine lettre est en préparation. Elle est prévue sortir vers le 15 novembre. Et puis, le conseil d'administration voudrait vous informer du résultat de son travail depuis la dernière Assemblée générale, où il avait été question de renouveler les différentes fonctions au sein du CERF et de réfléchir à un autre mode d'organisation pour répartir les tâches, avoir un travail plus collégial qui soulage le secrétariat général qui jusqu'alors assumait l'ensemble. Donc il y a deux CA qui y ont été consacrés et il nous semble tout à fait normal d'informer les membres du cercle de cette nouvelle organisation. Donc vous allez recevoir juste un feuillet, mais qui vous donne la nouvelle composition du conseil d'administration et comment on a pensé les choses pour se répartir entre les administrateurs les différentes fonctions. Et enfin, vous allez recevoir l'annuaire à jour du cercle qui inclura les nouveaux membres de l'année dernière à la fin du mois. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire.
Bon.
Oui.
On démarre.
Oui, c'est très bien. C'est tout.
Bon, je voudrais remercier James Galbraith d'avoir accepté de venir nous parler malgré ses nombreuses occupations. Je vais dire très brièvement pourquoi nous l'avons invité, et nous avons tout fait pour y parvenir en le contactant aux États-Unis. C'est un peu compliqué, mais on y est arrivé. Alors ceci est parti notamment du livre qu'il a écrit avec Yanis Varoufakis et Stuart Hollande, et de sa réputation d'économiste ouvert avec des idées neuves concernant ce qui nous préoccupe. Alors ce qui nous préoccupe, c'est d'abord l'avenir de la zone euro. Ce n'est pas la première fois que nous abordons ce sujet au Cercle Condorcet. Nous pensons qu'elle est en crise, qu'elle est sur une mauvaise voie, sur tout ça. Et nous sommes vivement intéressés par ce que vous pourrez nous dire à ce sujet, par les mesures à prendre pour la remettre sur le bon chemin, pour changer sa gouvernance que nous sommes nombreux à considérer comme désastreuse. Et puis il y a la Grèce. Alors la Grèce, dont le devenir nous préoccupe beaucoup, comme de nombreux Français. Nous savons que vous avez beaucoup échangé et collaboré avec Yanis Varoufakis, ne serait-ce que pour l'élaboration d'un système financier parallèle en cas de Grexit. Nous sommes donc vivement intéressés par votre vision concernant la suite des événements dans ce pays. Voilà ce que je vous propose un peu comme menu.
Très bien. Merci Jean-Pierre. Je suis très content d'être ici. Je vous remercie de vos invitations et de votre persistance. Je suis également très content d'être ici dans ce bâtiment, en face d'un restaurant excellent où je suis venu en 1979 célébrer un voyage de noces. Alors, je garde un souvenir très agréable de ce repas. Et c'est vrai, en effet, que j'ai eu des relations étroites avec Yanis Varoufakis depuis 4 ans maintenant, et surtout pendant qu'il...
Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort?
Surtout pendant les 5 mois qu'il était ministre des Finances de la République hellénique. J'étais hier à Lyon pour les journées de l'économie. Et on était sur une panel. À un certain moment, le modérateur a annoncé que il y avait une collaboration quelconque avec Paris Match. Et j'ai réfléchi un peu sur ça et j'ai dit qu'il fallait que je parle un peu de, à partir de mon rôle envers le ministre des Finances de Grèce. Et malgré le respect profond que j'avais pour cette revue excellente, je regrettais, mais j'interdisais formellement qu'elle vienne chez moi à la maison. Je vais vous parler ce soir brièvement, je pense, de la situation actuelle en Grèce après les efforts qui ont fait faillite du gouvernement Syriza, du premier gouvernement Syriza, de négocier un nouvel accord avec l'Europe. Quelle est la situation actuelle? Je crois qu'on peut la résumer en deux mots. Il y a, du point de vue politique, la colonisation. C'est-à-dire que la Grèce n'est plus un pays indépendant. Il est interdit au gouvernement grec, à partir du sommet de 12 juillet, d'avancer des projets de loi à son propre parlement sans l'accord préalable des créanciers. D'après certains documents, il est même interdit d'avoir des discussions publiques, des projets de loi qui ne sont pas les projets des créanciers. Dans les domaines économiques, c'est-à-dire dans presque tout qu'ils ont à faire. Pas permis de différer du terme du mémorandum qui a été imposé en juillet. Au moment des élections, en septembre, le président de la Commission européenne a dit d'une façon très claire que quel que soit le résultat des élections, la politique sera la même. Ils avaient à choisir entre un parti de gauche qui n'aimait pas le contrat et une partie de droite qui l'aimait bien. Mais c'était la seule distinction et ils ont choisi, bien sûr, le parti qui ne l'aimait pas. Mais ça ne veut rien dire. sur la question de ce qu'ils sont obligés de faire. On peut discuter des mérites de cette situation. Je crois que c'était le vice-premier ministre de Slovaquie qui appelait ça un protectorat.
Oui.
Mais ce n'est pas un État indépendant ou démocratique dans le sens normal de ces mots. Du point de vue de la politique économique, le mot juste, je crois, c'est la liquidation. La liquidation des biens d'État, des biens d'entreprise à travers la banqueroute et des biens des ménages, des particuliers à travers les évictions. C'est ça la thème dominante et unifiante du contrat qui a été imposé. Des réformes judiciaires pour expédier les évictions. La privatisation à outrance, sans considération de prix ni de possibilité de profiter d'une relance économique éventuelle du part du gouvernement, ni même de la fiscalité, parce qu'ils ne s'intéressent pas à la question qu'est-ce que ça va rapporter à l'État. Ils sont très contents que ça se vende à prix bas, les prix stressés. Mais il n'y a pas que ça, ce ne sont pas les seules choses. Il y a aussi des réformes, par exemple, dans les secteurs particuliers, en pharmaceutique, par exemple, où les entreprises grecques qui ont gardé leur compétitivité considèrent que le système qui va être imposé est un système qui favorise les entreprises plurinationales à cause non de leurs avantages technologiques ni de leur question des coûts de ressources, quoi que ce soit, mais parce que les entreprises plurinationales peuvent prendre l'avantage des systèmes d'impôts, de taxation variables dans les différents pays pour faire une invasion du marché grec. Et pour détruire, effectivement, pour démanteler le marché, les entreprises nationales. Il y a cette fameuse histoire des laitiers, du lait. Les Grecs ont été obligés d'étendre la période dite fraîcheur du lait de 3 à 7 jours. Dans des conditions qui sont toujours un peu difficiles en certaines parties du pays, parce que les magasins n'ont pas forcément la réfrigération complètement en place. Mais quel était le but de cette action? C'était de permettre les laitiers hollandais d'importer le lait en Grèce. En 3 jours, ce n'est pas suffisamment de temps. On ne peut pas, je crois, considérer que ce genre de réforme soit visé à la croissance, à la récupération éventuelle de l'économie grecque. Ce sont des réformes, de façon assez transparente, des lobbies. Des intérêts particuliers qui sont alliés aux institutions et à la politique des créanciers. Et qu'est-ce que c'est que la politique macroéconomique qui a été imposée sur la Grèce? C'est une politique récessionnaire. une combinaison qui combine les, des taux élevés des impôts, surtout de la TVA, qui est montée presque uniformément à 23%, et la réduction, après 5 ans de réduction sévère, encore des réductions dans les dépenses publiques, surtout envers les pensionnaires, envers les retraités. Ça vise en ce moment à une réduction d'1% du PIB dans les bénéfices annuels des retraités. Ce qui veut dire que parmi les gens qui sont relativement bien payés, c'est-à-dire des anciens ou fonctionnaires, quelques-uns que je connais personnellement, qui ont déjà perdu entre 45 et 50% de leur retrait, une réduction qui monte jusqu'à 2 mois déjà dans l'année, sur des pensions d'environ 1 000 euros par mois. Et ça, c'est les mieux payés. Pour les moyennement, les retraités en Grèce reçoivent 665 euros, recevaient. C'était sur une ligne de pauvreté de 664 euros. Et il y avait des centaines de milliers qui reçoivent environ 350. Et on visait à réduire ça par 120 euros. Alors, franchement, la destitution. Alors, vous avez une dépression forcément récessionnaire. Pour quel objectif? Pour atteindre un excédent primaire de 3,5% du PIB en permanence. C'est-à-dire une austérité sévère, mais un objectif quasiment impossible à obtenir dans l'expérience européenne et aussi dans l'histoire de la Grèce. Et dès que vous avez une politique récessionnaire avec un objectif impossible, vous avez un cycle vicieux qui va probablement s'en suivre. C'est-à-dire, vous aurez l'informalisation de l'économie, la perte des revenus malgré la hausse des taux. Ensuite, selon le contrat, des révisions des dépenses de l'État et des réductions encore envers les pensionnaires et les autres dépenses d'État. C'est ça le programme. Il y a aussi le fait que la performance de la Grèce dans ces conditions est sous un régime de surveillance constante qui ne cesse jamais. Il y a des revues tous les 3 mois. Et il faut qu'il soit considéré d'avoir achevé les objectifs tous les 3 mois pour pouvoir continuer à recevoir l'aide financière pour pouvoir payer les dettes et couvrir les frais d'État immédiats. Et pour les banques. Et si, par hasard, d'ici 6 mois, 9 mois, un an et demi, ils sont jugés de ne pas avoir achevé les objectifs. Dites, les créanciers gardent le droit de revoquer l'aide financière et de faire chuter le système bancaire. C'est une menace qui pèse sur chaque entreprise, sur chaque investissement, que ce soit réel ou potentiel. Alors, vous pouvez vous en tirer des conséquences sur la confiance, cette variable si importante dans les calculs de la politique néolibérale. Je ne connais personne, y compris Wolfgang Schäuble. J'ai eu l'honneur de faire sa connaissance au mois de juin, une visite privée à Berlin en compagnie d'un Yanis Varoufakis, qui pense vraiment que cela va réussir d'une façon de faire relancer l'économie grecque. Personne. Pourquoi est-ce qu'ils ont insisté sur ça? Pour des raisons politiques, surtout, qui variaient entre les pays et entre les institutions. Chez les pays de l'Est, c'était surtout, je crois, des raisons idéologiques. Ils ne voulaient pas admettre qu'une politique autre que la politique d'austérité soit possible. Pour l'Espagne, pour le Portugal, pour l'Irlande, c'était le fait qu'ils avaient chez eux des organisations politiques gauche, des nouveaux partis qui menaçaient de capturer l'imagination de leur public et qui s'inspiraient de Syriza. Impossible d'admettre que Syriza puisse réussir dans cette condition. Ceci n'avait rien à faire avec la Grèce. Hein. Rien à faire. C'était des considérations de la politique interne. En Italie, ils s'occupaient de leur propre situation. Ils n'étaient pas hostiles, mais ils étaient plutôt indifférents. En France, le gouvernement était plutôt sympathique, surtout Michel Sapin. Aussi Pierre Moscovici, qui était parmi les fonctionnaires de l'Europe le plus ouvert à la recherche d'une solution, d'un compromis raisonnable. Mais la France n'a pas voulu s'y mêler d'une façon sérieuse. Et l'Allemagne, le gouvernement allemand avait la responsabilité de manier toute l'Europe. Monsieur Schäuble était très franc avec le gouvernement grec, qui ne pouvait rien offrir. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas d'un certain point de vue sympathique. Il a dit, je sais que le mémorandum n'est pas bon pour la Grèce. Il n'a pas faussé son avis sur cette question envers nous. Mais il a été très franc. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux vous offrir que ça, ou une sortie de l'euro. Je vais en venir tout à l'heure. Les institutions. Il y en avait 3. Dont 2 qui comptaient d'une façon sérieuse dans cette affaire, c'est-à-dire c'était le FMI et la Banque Centrale Européenne. La Commission, il est possible qu'on aurait pu négocier avec. Mais le FMI, c'est une organisation internationale qui va au-delà de l'Europe Et il y a des implications internes s'ils permettent à un pays européen de faire des choses qu'ils ne permettent pas aux autres. Hein? Alors, un problème. Il y a aussi le fait que le FMI sait très bien qu'il n'aurait jamais dû entrer dans cette affaire en 2010. Jamais, jamais. Ils ont fait un prêt à la Grèce qui était le plus grand par rapport au quota de son histoire. À 32 fois. Pourquoi ils ont fait ça? Deux raisons. Deux raisons politiques. Ils ont fait ça contre les conseils de l'équipe professionnelle et contre les conseils de certains des directeurs de l'Australie, de Chine, de la Suisse, du Brésil, je crois aussi. Mais pour deux raisons. D'abord, le FMI était presque au chômage. Il n'y avait rien d'autre à faire. L'Amérique latine avait déjà abandonné la coopération avec le FMI. Ils avaient repayé le programme. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de revenus pour le FMI. Il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Autrement, petite organisation sans conséquences. Et il y a une deuxième raison. Je crois que vous souviendrez peut-être que le directeur général du FMI à l'époque... c'était un certain monsieur avec une réputation impeccable qui voulait devenir président de la République française. Et pour ça, il considérait que ce soit une bonne idée qu'il fasse quelque chose pour aider les banques françaises qui étaient dans des difficultés à partir de la crise internationale, surtout la question de la Grèce. Alors, la dette grecque a été transférée des banques françaises, des banques allemandes, des banques grecques, qui appartenaient d'ailleurs aux banques françaises. Elles sont tombées finalement sur le dos des contribuables dans tous les pays européens, même dans des pays qui sont beaucoup moins riche que la Grèce. Alors, la Banque Centrale Européenne, c'est une institution qui détient beaucoup de pouvoir, qui sent sa puissance et qui n'est responsable à personne, n'a aucune comptabilité politique. C'est très différent que la situation en Amérique avec la Federal Reserve, qui est responsable au Congrès. Et la Banque Centrale Européenne considère évidemment que des petits pays n'ont pas le droit de différer du point de vue idéologique avec les économistes de la BCE, n'ont pas le droit d'établir les termes de la présence de créanciers dans les ministères d'Athènes, par exemple. C'était une question importante au début du gouvernement Syriza. Et ils considèrent que c'est une fonction d'une banque centrale, non de stabiliser le système financier des membres pays, mais en certains cas de les déstabiliser. Et c'est ce qu'elle a fait en Grèce. Le 4 février, elle a annulé la provision qui permettait les banques grecques de se financer directement à la banque centrale. Donc, il était nécessaire qu'elles dépendent sur la liquidity assistance de liquidité d'urgence, emergency liquidity assistance, provision spéciale, qu'ils contrôlaient et il pouvait promulguer, si vous voulez, une atmosphère d'inquiétude envers les dépôts dans les banques grecques qui augmentaient jusqu'à l'imposition des contrôles sur les capitaux en fin juin. Alors, dans ces conditions, les banques grecques n'ont rien fait, ne pouvaient rien faire. Et l'économie s'est tombée dans un état de stagnation totale. Alors, où est-ce qu'on est maintenant ?